Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
C'est un privilège que de t'appartenir. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Ainsi, ils ne sont plus nés ni de la chair ni du sang. Ils sont nés du Saint-Esprit. Ils ne sont plus nés ni de leurs parents. Ils sont nés du Saint-Esprit. Nous sommes nés du Saint-Esprit. Et nous sommes extrêmement privilégiés, Père, d'être à ta table, Seigneur. Reçois notre profonde adoration à la maison du bâtisseur. Que le peuple que nous sommes commence à adorer le Seigneur et à faire monter vers lui comme un parfum d'une agréable odeur. Est-ce qu'on peut créer l'atmosphère qui sied à l'adoration, l'atmosphère qui sied à notre Père céleste? Reçois
Je te donne mon adoration, Jésus.
toi tu baignes.
Je te donne mon adoration, Jésus.
Béni sois-tu pour tout ce que tu es. Merci pour ta grâce. Merci pour le peuple que tu t'es choisi. Merci pour ton église. Merci pour l'œuvre que tu as commencée au travers de nous. Certainement tu la rends parfaite. Esprit du Dieu vivant, nous t'invoquons, nous t'appelons. Nous avons besoin de toi. Glorifie Jésus-Christ dans cet endroit. Glorifie Jésus-Christ dans notre génération. Laisse-nous être ces vases qui te reçoivent et qui te transportent partout où nous allons, Seigneur.
Je te donne mon adoration, Jésus. Reçois l'adoration, Jésus.
Reçois.
Je te donne mon adoration, Jésus.
Reçois l'adoration, Père de grâce.
Reçois l'adoration, Jésus. Reçois la.
Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ce que tu fais dans ta maison. Que la guérison soit leur partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu et acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus-Christ dans cet endroit? Tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Que les fleuves d'eau vive inondent nos cœurs maintenant. Et que la profondeur et la révélation de ta parole soient notre partage aujourd'hui. Que la délivrance et la libération des captifs se fassent maintenant. Que ton esprit, Seigneur, se mouvoie. Change les cœurs. Libère les captifs. Redonne la vie aux aveugles. Guéris ceux qui sont malades. Accomplis des miracles au milieu de nous. Fais une œuvre nouvelle et grande à la maison du bâtisseur. Que toute la gloire soit pour toi, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie vers l'Éternel? Yeah! Alléluia. Alléluia. Nous pouvons prendre place en t'asseyant. Dis bonjour au moins à trois excellences en leur disant bonjour excellence, bienvenue à l'ambassade, bienvenue à la maison de Dieu. C'est un privilège que d'être là à tes côtés. Alléluia. Alléluia, bien, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très, très, très bien ce matin. Non, quand je dis très, 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 tu rajoutes à chaque fois un très de plus. Comment vas-tu très, très, très bien ce matin? Non, tu dois dire très, 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 très bien, sauf si tu as oublié comment on compte. Bienvenue encore à la maison du bâtisseur, bienvenue à l'ambassade de Christ. Bienvenue à l'Assemblée des parlementaires du Royaume des Cieux. Bienvenue, nous sommes en Conseil des ministres. Dis avec moi, on est en Conseil des ministres et nous allons parler des affaires du Royaume des Cieux. Amen. La personne qui est assise à côté de toi est une excellence, c'est une majesté, c'est un roi, c'est une reine. C'est une grâce pour toi d'être assise à ses côtés, car bientôt viendra le temps où tu devras prendre des audiences pour la rencontrer. Le sais-tu? Oh, n'y crois pas. Toujours impressionnant quand on lance un compliment à quelqu'un et puis il dit « Ah bon, c'est à moi qu'on a parlé ». Chaque fois que les fils du royaume se retrouvent le dimanche matin, c'est une assemblée des parlementaires du royaume. Ce sont des moments très très importants. Amen. C'est pour ça que tu rencontres parfois des combats à venir à l'église. Et nous allons parler de choses très très importantes et c'est pour moi une joie d'être là aujourd'hui. Parce que pour moi c'est le jour le plus important de la semaine. Nous sommes en famille. Amen. On est en famille. Notre famille spirituelle est bien plus importante que notre famille biologique. Car c'est celle avec laquelle nous passerons l'éternité. Et c'est une grâce pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble devant leur Père et l'écouter. Alléluia. Nous allons maintenant passer à la parole. Merci Saint-Esprit parce que tu inspires ta parole. Livre des Proverbes au chapitre 24. Nous allons continuer sur le chapitre que nous avons ouvert la semaine dernière sur le mystère de la sagesse. Dis avec moi le mystère de la sagesse. Un enseignement très, très, très important. Et cet enseignement, nous le suivons toujours dans le cadre de notre série sur la révélation du royaume. Proverbes chapitre 24, à partir du verset 3. Il est écrit ceci. C'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. C'est grâce au savoir que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Un homme sage est un homme fort. Dis avec moi, un homme sage est un homme fort. Et celui qui a de la connaissance augmente sa force. En effet, c'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille. Et la victoire s'acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. Pour l'insensé, la sagesse est trop élevée. C'est pourquoi il n'ouvre pas la bouche dans l'assemblée aux portes de la ville. Dis avec moi les portes de la ville. Je vais relire le même passage dans la version de la Bible français courant. C'est un peu petit pour ceux qui sont au fond, mais c'est pas grave, je le lis. C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la connaissance consolide sa puissance. Oui, il te faut de bonnes directives pour faire la guerre et la victoire tient au grand nombre de conseillers. La sagesse est inaccessible aux fous. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte de la ville. Alléluia. Et je vais la lire dans une autre version de la Bible amplifiée où il est écrit « Par la sagesse habile et pieuse, on construit une maison, une vie, une famille ». Et par la compréhension, il est établi sur un fondement sain et bon. Par la connaissance, ses salles sont remplies avec toutes les richesses précieuses et agréables. Un homme sage est fort. Dis avec moi, un homme sage est fort. Et un homme de science renforce son pouvoir. Car par des conseils avisés, vous pouvez mener votre guerre. Et en abondance de conseillers sages, il y a la victoire et la sécurité. La sagesse est trop exalté pour un fou endurci, arrogant, il n'ouvre pas sa bouche dans la porte où les gouvernants de la ville sont assis dans le jugement. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Cette série, je vous rappelle, nous sommes toujours sur l'étude de la couronne du roi. Pour ceux qui viennent pour la première fois, toute notre étude depuis maintenant quasi un an porte sur les attributs du roi. Le sceptre, la couronne et l'encensoir. Et nous sommes toujours sur la couronne. Couronne est le symbole de la puissance et du pouvoir. Tout roi, comme son nom l'indique, possède un pouvoir. Et ce pouvoir est caractérisé par la sagesse. Dites-moi la sagesse. Ça fait plusieurs semaines que je médite sur le sujet de la sagesse. Et je demande à Dieu de m'enseigner là-dessus, de me parler. Parce que dans la Bible, il est écrit que la sagesse est la principale chose. Tout ce qu'on veut avoir dans la vie, si on a la sagesse, on l'obtient. Et la Bible nous dit encore, au Proverbe 4 également, « Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Amen. Ce passage est très, très, très profond. Ce passage de Proverbe chapitre 24. C'est par la sagesse qu'on bâtit une maison. Par l'intelligence, on en remplit les chambres, etc., etc. Et il dit, un homme sage est fort. Si tu es sage, tu es quelqu'un de fort, dit Dieu. S'il y a bien une chose qui caractérise le Seigneur, c'est la sagesse. Parce que Dieu n'a pas la sagesse, Dieu est la sagesse. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce passage? J'ai noté 7 choses à retenir dans ce passage. La première, c'est que quelle que soit la maison qu'on veut bâtir, la famille, le ministère, une entreprise, un business, on a absolument besoin de sagesse. Dis avec moi la sagesse. La sagesse est très importante. Quand tu regardes ce que quelqu'un a accompli dans sa vie, tu peux voir si c'est un homme sage ou pas. Quand on regarde quelqu'un qui a un grand ministère, on peut voir quelqu'un de très sage. Quand on voit quelqu'un qui a une famille stable, des enfants bien élevés, un mariage solide, propre et prospère, c'est un homme très sage. Alléluia. Quand on voit le désordre dans tout ce que tu fais, tu n'es pas sage. Deuxième chose qu'on peut retenir de ce passage, c'est qu'un homme sage est fort. Parce que la sagesse est la plus grande force qu'une personne puisse posséder dans la vie. Bien plus même que la force physique. Un jour, une femme est attrapée en flagrant délit d'adultère avec quelqu'un et on l'amène devant Jésus. Et on dit à Jésus, la loi de Moïse dit qu'on doit la lapider, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Il fallait que Jésus-Christ donne une parole de sagesse pour que l'on ne tue pas cette femme. Cette parole, quand Jésus-Christ l'a donnée, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, cette parole a résonné dans l'esprit des gens à tel point qu'ils ont juste jeté le caillou et ils sont tous partis. Si ce n'était pas puissant ça. Pourquoi? Parce que la plus grande force, c'est celle que l'on exerce sur les consciences des gens. Amen. La troisième chose qu'on peut retenir de ce passage, c'est que la connaissance augmente la force et le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu connais de choses, plus tu as de la connaissance et plus tu deviens quelqu'un de puissant dans la société. S'il y a bien une chose que je t'encourage à chercher ardemment, c'est la connaissance. Parce que quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est quelqu'un de puissant et de sage. Je ne te parle pas de la connaissance que l'on apprend à l'école. Je te parle de l'instruction, d'être quelqu'un d'érudit et d'instruit sur tous les aspects de la vie. S'il y a bien une chose que Dieu nous encourage à chercher, c'est la sagesse. Toute la Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament, Paul dit encore, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous ayez de la sagesse, de la connaissance. Plus tu as de la connaissance, plus tu deviens quelqu'un de puissant dans la société. La quatrième chose qu'on peut dire de ce passage, c'est que tu dois être quelqu'un de très instruit et sage pour gagner les combats de la vie et être quelqu'un d'influent. Les gens qui sont influents dans la vie, ce sont les gens qui ont une connaissance exercée dans un domaine. Les gens qui dirigent le monde, ce sont les gens instruits. Les ignorants ne dirigent pas le monde, ce sont les gens instruits. Les gens qui dominent dans le monde, ce sont les gens instruits. Et on dit que ce sont des gens sages. Maintenant, nous allons voir si c'est vrai ou pas. La cinquième chose qu'on peut retenir de ce passage, c'est que la sagesse n'est pas pour le fou, dit Proverbe 24. Et l'insensé, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est aveugle, il ne comprend pas les principes spirituels et de prospérité du royaume de Dieu. Il est fou. S'il y a bien une insulte dans la Bible que Dieu donne, c'est insensé. Insensé, c'est méchant. Quand Dieu dit insensé, c'est que vraiment, c'est grave. Alléluia. La sagesse n'est pas pour les fous. 6. Celui qui ne possède pas la force de la sagesse n'a aucune influence dans les affaires de la ville, c'est-à-dire l'économie du pays. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est un pauvre. Dis avec moi, il ne faut pas être pauvre. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, ne sois pas pauvre. Parce que si tu es pauvre dans la vie, on ne te mêlera pas aux affaires de la ville. Car les gens qui pilotent, qui dirigent, qui tiennent l'économie d'un pays, ce ne sont pas les pauvres. Ce sont les gens instruits. Alléluia. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut encore retenir de ce proverbe? C'est que celui qui ne possède pas la force de la sagesse n'a aucun pouvoir et ne gouverne pas aux portes de la ville. Alors, quand j'ai lu ce passage, c'est cette expression-là qui a attiré mon attention. Les portes de la ville. Dis avec moi les portes de la ville. Ça, c'est fort, ça. Parce que Proverbe nous dit ici, Salomon nous dit ici, que celui qui a de la sagesse gouverne aux portes de la ville. Alléluia. Celui qui a de la sagesse, c'est quelqu'un de béni. Pourquoi? Parce que la sagesse, premièrement, elle oint. La sagesse dépose sur la personne qui l'a une onction. Tu vois, quelqu'un qui a de la sagesse, tu peux voir l'onction qu'il y a sur sa vie. Alléluia. La sagesse, elle te rend précieux et elle te valorise parmi les gens. La sagesse, quand tu l'as trouvée, elle te fait opérer à grande vitesse, bien plus vite que les autres. La sagesse, quand tu l'as trouvée, elle te donne une identité que tu ne connaissais pas, que tu n'avais pas avant. quand on voit quelqu'un qui est sage, on est juste admiratif. Quand on l'écoute parler, on a de l'admiration pour lui. Quand on le voit exercer un don avec sagesse, on est dans l'admiration. La sagesse, quand tu l'as trouvée, elle te fait briller, elle te fait rayonner. La sagesse, quand tu l'as trouvée, elle rend la vie agréable et moins compliquée. La sagesse, quand on l'a trouvée, elle attire la richesse. Dis avec moi la richesse. On va y revenir tout à l'heure. La meilleure copine de la sagesse, c'est la richesse. Celui qui devient sage devient plus riche. Tu verras que jamais quelqu'un va grandir en sagesse et n'aura pas d'argent. L'argent vient toujours avec la sagesse. Tu veux de l'argent dans la vie? Deviens plus sage et plus instruit. Car l'instruction coûte cher. Je ne parle pas des diplômes et des doctorats que l'on donne à l'école. Je parle de la sagesse dans la vie. La sagesse, quand on la trouve, la Bible nous dit qu'elle apporte la santé et la longue vie. Car en fait, qu'est-ce que c'est que la sagesse? On a donné la définition la semaine dernière dans le livre de Job au chapitre 28. En vérité, la sagesse, la véritable sagesse, c'est être capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Voici la véritable sagesse. Donc, quelqu'un qui sait faire la différence entre ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui, vivra longtemps. Oui, vivra longtemps. Car on voit beaucoup de gens qui avortent leur vie parce qu'ils manquent de sagesse aujourd'hui dans la société. Que quelqu'un dise avec moi la sagesse. La sagesse, quand on la trouve, elle te donne une place d'honneur devant les gens. Ouais, la sagesse honore. La sagesse, quand tu la trouves, elle t'élève. Elle amène l'élévation. Celui qui veut être élevé doit grandir en sagesse. Elle te met aux commandes, la sagesse. Ça veut dire quoi, elle te met aux commandes? Quand quelqu'un est sage, automatiquement, il prend les rênes, quel que soit l'endroit où il est. Il devient chef tout de suite, parce qu'il est plus sage que les autres. C'est pour cela que Joseph, lorsqu'il se trouvait devant Pharaon, Joseph dit à Pharaon, trouve quelqu'un parmi ton peuple, qui soit sage, qui pourra faire ce que je viens de te dire. Et Pharaon dit, mais où veux-tu que l'on trouve quelqu'un aussi sage que toi? Il n'y a pas plus sage que toi. C'est toi qu'on va prendre comme notre chef, même si tu es hébreu. On l'a mis aux commandes du pays. Alléluia. La sagesse, quand on la trouve, elle te revêt d'autorité. Tu vas te rendre compte que quand tu es en face de quelqu'un qui a de la sagesse, quand il ouvre la bouche, il vous fait peur. Vous reculez tout de suite. Parce qu'en général, quand quelqu'un est très intelligent et qu'il parle, on se calme et on l'écoute. La sagesse, quand on la trouve, elle met un terme aux batailles inutiles. Il y a beaucoup de combats que l'on mène dans la vie, beaucoup de galères que l'on traverse dans la vie parce qu'on n'est pas sage, parce qu'on n'a pas la connaissance. La connaissance libère, elle délivre. Si aujourd'hui tu as un problème, tu as des difficultés, quelles qu'elles soient, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre, n'est-ce pas? Donc, tu as un problème aujourd'hui dans un domaine? Obtiens la connaissance. Trouve la clé de la connaissance qui te permettra de sortir de ce problème. Quel problème as-tu? Une maladie? Un travail que tu ne trouves pas? Je t'assure que si tu t'assois avec quelqu'un qui a de la connaissance, 5 minutes, il va te donner des clés et tu vas te rendre compte que c'est plus aussi difficile que ça que de trouver du travail. Tu as des problèmes d'argent? C'est peut-être parce que tu ne sais pas gérer ton argent. Car il y a des gens qui gèrent très bien leur argent et qui prospèrent. Alléluia. La sagesse, quand on la trouve, elle attire la faveur. Quelqu'un qui a de la sagesse, la faveur est attachée à lui. La faveur ne se poursuit pas, la faveur s'attire. La grâce ne se poursuit pas, la grâce s'attire. La bénédiction ne se poursuit pas, la bénédiction s'attire, voire même s'active. Tout à l'heure, quand on parlait de faire une semence en début d'année, c'est une grâce et une bénédiction que tu vas activer en semant. Si tu le fais par la foi et non avec incrédulité, tu verras des faveurs qui vont naître dans ta vie à cause juste d'une semence. Et enfin, la sagesse, quand on la trouve, elle fait de toi un prodige. Alléluia. Dites avec moi la sagesse. Il faut chercher la sagesse. Il faut poursuivre la sagesse. Le premier endroit où on trouve la sagesse, dans la parole de Dieu. Mais pasteur, c'est en lisant la Bible tous les jours que je vais avoir de la sagesse. Plus tu entres en profondeur dans la révélation et la compréhension de la parole de Dieu, plus tu deviens sage et intelligent. Parce que la parole de Dieu, quand tu vas la percer, elle va ouvrir tes yeux sur des réalités spirituelles que tu ne comprenais pas avant. Je t'assure. Oh, regarde. Je suis tombé sur un passage qui m'a intrigué. Non, deux passages. Le premier passage, et c'est là où quand j'ai posé la question à Dieu, j'ai dit, Dieu, comment tu fais ça? Il m'a dit, trouve la sagesse et tu comprendras. Le premier passage, c'est lorsqu'Adam et Ève ont péché. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, la Bible dit que Dieu prit une peau d'animaux, les couvrit, n'est-ce pas? Sauf que la Bible ne nous dit pas que Dieu a tué un animal. On nous dit juste que Dieu prit une peau d'animaux et les couvrit. Cherche n'importe où, tu verras jamais Dieu tuer un animal. Et le deuxième passage que j'ai vu, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, est crucifié, nu, juste avec une culotte. On le prend une fois qu'il est mort et on l'emmène dans le tombeau. On le met dans le tombeau. Il reste là-bas 3 jours. On l'a mis là-bas nu. Directement, il était nu. Et Jésus était seul dans le tombeau. Il n'y avait personne qui l'avait accompagné là-bas. On l'avait juste revêtu d'un linceul. 3 jours plus tard, ce bon monsieur sort avec une tenue solennelle, cotonnée, propre. La question que je pose à Dieu, c'est comment tu as fait pour avoir cette magnifique tenue, Jésus? Ce sont des anges qui t'ont amené ça? Et là, je pose une question à Dieu. Je dis à Dieu, mais comment tu fais pour créer ça? Amener ça à l'existence sans nous expliquer comment tu as fait. Eh bien, Dieu me faisait comprendre que aujourd'hui, nous, ses enfants, grâce à la sagesse et la compréhension des vérités divines, nous avons la capacité de créer comme lui, il crée, sans respecter les processus naturels. C'est pour cela que j'ai dit que 2017 va être une année de miracles. Tu vas voir des miracles arriver qui vont t'étonner. C'est pour ça que j'ai dit que s'il y a quelqu'un ici qui veut se lancer dans les affaires en 2017, et tu pries ici, lance-toi dans les affaires. Parce qu'il y a une grâce qui va toucher les enfants de cette maison. Dieu n'opère pas dans le naturel. Dieu opère dans le surnaturel. Quoi? Pour créer de la richesse. Dans le domaine des affaires, il faut quoi? Créer une entreprise, etc. Travailler dur, etc. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu dit que si tu te lances, moi, de manière surnaturelle, je vais activer des réseaux célestes qui vont amener la richesse vers toi. Les hommes autour vont demander, comment tu fais? Tu vas dire, j'ai une sagesse surnaturelle que vous n'avez pas. Alléluia. La sagesse attire la faveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas voir, quand tu commences à marcher avec la sagesse surnaturelle, tu vois des grâces, des opportunités, des percées qui te poursuivent. Tu cherches même pas, tu forces même pas. Le téléphone sonne, on vient, on te dépose sur le bureau. Tu sais pas comment ça vient. Ça vient, c'est tout. Tu vas voir des contrats apparaître que tu n'avais même pas demandé. Les gens vont absolument vouloir signer des contrats avec toi à cause de ce qu'ils verront sur ta vie. Que quelqu'un dise avec moi la sagesse. La Bible nous dit que Salomon avait une telle sagesse surnaturelle que on ne faisait même pas attention à l'argent. L'argent était devenu comme sans valeur. Tout était d'or. Tout était d'or. Je déclare et je décrète que l'or est attaché à ta vie à partir de maintenant au nom de Jésus. Je t'assure que depuis que je suis rentré dans la compréhension de la sagesse, je commence à comprendre des choses que je ne comprenais pas. Je me rends compte que mais en fait, le monde dans lequel on vit, c'est un monde surnaturel. Il faut opérer dans le surnaturel. Il ne faut pas opérer dans le naturel. Tout ce que l'on voit avec les yeux, en fait, n'existe pas. Tout est dans l'esprit. Tout est dans l'esprit. C'est toi qui donnes de la valeur à ce que tes yeux voient. Et ne regarde pas aux choses visibles, car elles sont passagères. Regarde aux invisibles, car elles sont éternelles. Alléluia. Ah. Regarde ce que la Bible nous dit. Dans le verset que nous avons lu, elle dit, l'insensé, la sagesse est trop élevée pour lui, il n'ouvre pas la bouche dans l'assemblée, aux portes de la ville. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte de la ville parmi ceux qui gouvernent et qui sont assis dans le jugement. Donc, si je comprends bien, ce que Salomon est en train de nous dire ici, c'est que ce sont ceux qui ont de la sagesse qui ont le droit de s'asseoir parmi ceux qui jugent. L'église que nous sommes, si on veut avoir notre place parmi ceux qui jugent, il faut qu'on soit sage. Et je vais nous expliquer pourquoi. Avec moi l'assemblée de ceux qui gouvernent. C'est qui ceux qui gouvernent? Ceux qui jugent dans le pays. C'est qui? Parce qu'il faut s'intéresser à ces gens-là. Dieu dit, intéressez-vous à ceux qui jugent. Ceux qui jugent, on dit qu'ils sont sages. Ainsi, celui qui n'est pas reconnu comme fort et sage, il n'a pas le droit d'ouvrir la bouche. Il n'a pas le droit d'ouvrir la bouche. N'a le droit d'ouvrir la bouche que celui qui est reconnu comme sage dans la nation. Le fou, c'est celui qui est ignorant. Il est stupide et pas assez intelligent pour parler. Alors on lui dit, ferme ta bouche. Si l'église que nous sommes, si on n'est pas reconnu comme sage, on n'a aucun droit de parole dans ce pays. Si l'église que nous sommes, on veut avoir un droit de parole, de jugement dans ce pays, le Gabon, il faut que notre sagesse soit reconnue. Sinon, on n'a pas le droit de parler. L'ignorant n'a pas sa place parmi les puissants. Qui sont ceux qui jugent? Ce sont les puissants du pays. Aujourd'hui, peut-on dire que l'église a sa place parmi les puissants dans ce pays? Est-ce qu'on peut dire que l'église a sa place parmi les puissants dans ce pays? Ose me dire oui. Pourtant, c'est là que Dieu nous voit, parmi les puissants. Ceux qu'on considère comme plus intelligents, ce sont ceux qui sont élevés en dignité et qui gouvernent les autres. Si tu n'es pas sage, si l'église, le corps que nous sommes, n'est pas sage, alors on ne peut pas s'asseoir avec ceux qui gouvernent. Le message que je vais donner aujourd'hui est un peu dangereux quand même. Mais ce n'est pas grave, car je vais un peu bousculer. Amen. Les plus intelligents dans le pays, ce sont les gens les plus influents et les plus riches. Les plus intelligents dans le pays, ce sont ceux qui sont vus comme les plus influents. J'ai même envie de dire les plus influents, ce sont ceux qui sont considérés comme les plus intelligents. Et en plus, ce sont les plus riches. Si l'église n'est pas riche, elle n'est pas considérée comme influente, comme intelligente. Elle n'est pas sage. Elle n'a pas droit de parole à la porte de la ville. Les moins intelligents, ce sont les dirigés. Ils ne décident de rien du tout. Malheureusement, notre église est dans cette position. Elle est dirigée, elle ne dirige pas. Elle n'a pas droit de parole. Elle écoute ce qu'on lui dit et elle obéit. C'est tout. On est les dirigés. On n'est pas les dirigeants. On n'a pas droit de parole à la porte de la ville. Pourquoi? Parce que on n'est pas assis parmi les puissants. On n'est pas influent. Le problème avec notre église, l'église du Gabon, c'est que on se contente entre nos quatre murs de louer notre Seigneur. Ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas notre problème. Ça ne nous intéresse pas. Le monde peut partir en vrille. On est juste là, oh, regardez le monde. Oh, oh regardez ce qui se passe. Oh, oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Mais à quel moment vous jouez un rôle là-dedans? Alors que Jésus-Christ a dit que nous sommes son église, son Sénat, Ecclesia. Et il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez! On vous attend là-bas, parmi les puissants. Influencez et changez le monde. Non, on est assis comme des esclaves et puis on nous commande. On n'est pas sages. C'est pour cela que Salomon nous dit encore dans le livre de Ecclésiaste, j'ai vu encore une abomination sur le soleil. J'ai vu les esclaves sur des chevaux comme des rois et j'ai vu les rois marcher à terre comme des esclaves. Il dit c'est une abomination par les dirigés. En fait, ils sont censés être les dirigeants. Ils ne décident de rien du tout. On ne décide de rien à la porte de la ville. On ne décide de rien dans les hautes sphères du pays. On ne décide de rien parce qu'on n'est pas puissant. Pourtant, David dit dans le psaume 68 au verset 2, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Où est l'église du Gabon? Elle est où cette église? À part parler beaucoup et avoir la wopo, elle ne sait rien faire d'autre. Elle n'est pas puissante. Et elle n'a pas droit de parole à la porte de la ville. Parce que sa sagesse n'est pas reconnue. Pourtant, cette église-là qui lit cette Bible tous les jours, qui reçoit des grandes révélations chaque dimanche, c'est cette même église-là qui apparaît dans les journaux le lundi matin avec toutes sortes de scandales où on insulte les pasteurs et les enfants de Dieu. Les soi-disant sages du pays, regardez, on les roule dans la boue. Et encore, quand on insulte leur Jésus-Christ, il n'y a même pas un qui peut monter au créneau. Essaie de toucher au Mahomet des musulmans, tu vas voir. Tu vas voir qu'ils sont puissants dans le pays. Si demain les puissants du pays décident de supprimer la fête de Pâques, on va voir où est l'église. On va voir elle est où. Parce qu'elle n'est pas assise parmi les puissants. Il y a quelqu'un près de toi, il faut être puissant, mon ami. L'église de Christ a sa place parmi les gouvernants. Mais le problème, c'est qu'elle n'occupe pas la place. Vous savez, vous vous rappelez de cette parole du prophète Joël lors de la conférence mandat, quand il a parlé d'espace occupé. Hein? Il a dit, on prie. On chasse le démon. Le problème, c'est que quand le démon revient, il trouve la maison vide. Il dit, mais il prend 7 démons encore plus méchants et il s'y réinstalle. Le problème, on n'occupe aucun espace, l'église. On n'est nulle part. Tout ce qu'on sait faire, c'est prier. Prier, on est très fort. Jeûner, on est très très fort. Régner, on ne connaît pas. Dominer, on ne connaît pas. Influencer, on ne connaît pas. Par contre, prier, chasser les démons. Oh, rababahan de rebo stakata. Là, on est fort. Voici, la rentrée scolaire a commencé avec beaucoup de retard. Où est l'église? Où sont nos écoles qui commencent à l'heure? On est où? Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qu'on prie là, ce n'est pas notre pote. Hein. Je vous assure, ce n'est pas notre ami, hein, Jésus-Christ. Hein. Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Il nous a donné une mission, il nous a mandaté. Et nous aussi, l'église, nous serons jugés. Nous serons aussi jugés. Si on n'accomplit pas la mission, on sera jugés. Parce que nous n'occupons pas l'espace, il y a beaucoup d'âmes qui meurent parce qu'on n'est pas présent. Parce qu'on n'est pas présent. J'ai observé quelque chose en 2016, c'est que la conférence mandat est quasiment le seul grand événement chrétien qui a eu lieu dans tout le pays pendant un an. Il n'y a pas eu de grand événement chrétien. Les chrétiens étaient occupés à quoi en 2016? À la politique. Ils sont occupés des élections présidentielles. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Là, ils étaient très très forts. Quand il s'agissait d'invoquer le grand Dieu, il n'y avait plus personne. L'assemblée, ceux qui gouvernent. Et ceux qui gouvernent, ils ont un pouvoir. Lequel? Ceux qui gouvernent, ils décident du sort de la nation. Tiens donc, ceux qui gouvernent, ils conduisent la destinée de la nation. Ceux qui gouvernent, ils influencent les opinions et les mentalités. Ceux qui gouvernent, ils imposent leur manière de penser dans les hémicycles. Ceux qui gouvernent, ils votent les lois et dictent les règles. Ce n'est pas l'église, ça. Ceux qui gouvernent, ils façonnent la culture des peuples. Ceux qui gouvernent, ils détiennent les rênes du pouvoir dans le pays. Ceux qui gouvernent, ils possèdent les richesses de la nation. Ceux qui gouvernent, ils sont considérés comme les sages du pays. Ceux qui gouvernent, ils contrôlent l'économie du pays. Si on veut changer un pays, il faut prendre son économie. Faites-moi changer le pays. Chrétien prie tous les jours, Seigneur, change le pays. Oh Dieu, que ton règne vienne, change le pays. Mais dans l'économie, vous êtes absent. Vous ne connaissez pas. Quand on dit séminaire apostolique et prophétique de délivrance pour chasser les 868 démons qui existent sur la terre. Wow, tu vois le monde, ils sont tous là. Oh, rabababa. Oh. Quand on dit séminaire business, convention entrepreneuriat et économique, connais pas. C'est quoi? Ça, c'est un nouveau pasteur qui vient faire encore genre, connais pas. Les choses là, c'est trop élevé pour nous. Vraiment, les affaires, l'entrepreneuriat, tout ça là. Laissez ça. Ça, c'est des choses des païens, ça. Au nom de Jésus, ces gens-là. Voilà encore les pasteurs qui viennent prêcher la prospérité. Oh, tout ça. Mais quand on se retrouve dans nos églises, change le pays. Je dis stupide. Vous êtes stupides, mes enfants. Si vous voulez changer le pays, vous devez prendre l'économie de ce pays. Quand Dieu dit à Moïse, dans Exode chapitre 3, c'est toi que j'ai choisi pour aller délivrer mon peuple d'Égypte. Dieu prend Moïse. Et Dieu dit, va avec ta verge là. C'est un pouvoir ça. Quand vous voyez Moïse commencer à appeler toutes sortes de fléaux sur le pays, Moïse était en train de bousiller l'économie du pays. Et il y a une plaie que Moïse, très particulière que Moïse appelle, c'est lorsqu'il change l'eau en sang. Quand Moïse change l'eau en sang, la Bible dit que tous ceux qui étaient dans l'eau est mort. À leur époque, tu penses qu'ils vivaient de quoi? De la pêche essentiellement. Il était en train de paralyser l'économie du pays. Entièrement. C'était une guerre stratégique. Quand on fait la guerre aujourd'hui, quand ils font les guerres des drones, On frappe quoi? On frappe des zones stratégiques dans le pays, non? On va frapper certains entrepôts, etc. pour paralyser le pays. C'est une guerre stratégique. On peut prendre le pays, il faut prendre l'économie. Car ceux qui gouvernent, ils tiennent l'économie. Et tant que l'Église n'est pas présente dans l'économie, elle ne possède aucune des richesses de ce pays. Elle ne peut pas changer le pays. Donc il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de prier que le règne de Dieu vienne pour changer le pays. Il faut plutôt prier qu'il y ait des enfants de Dieu qui se lèvent dans l'économie pour aller prendre possession de l'économie. Alléluia. Ils contrôlent l'économie, ceux qui gouvernent. Ils gouvernent le pays. Ils détiennent les clés qui donnent accès au pays, à la ville. Notre évangile est un évangile pratique, pragmatique. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour agir. Jésus-Christ ne faisait pas que prier. Jésus-Christ priait la nuit et la journée, il agissait. Nous, la nuit, on dort et la journée, on prie. Non. La journée, on agit. On n'est pas en train de prier. La journée, on est tous en mode furtif. Mais on travaille. Prendre le pays. On infiltre les sociétés. On infiltre les hautes administrations. On infiltre les sphères de décision. Et on prend le pays. Ah, moi, la sagesse. Oh oui. Donc, ceux qui dirigent, ce sont ceux qui décident du sort du pays. Amen. Et regarde ce que Salomon nous dit encore dans Proverbes chapitre 8, versets 1 à 5. Intéressant ce qu'il dit ici. Il dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne parle-t-elle pas tout haut? C'est au sommet des hauteurs dominant la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle crie, « Homme, c'est vous que j'appelle et ma voix s'adresse aux êtres humains, vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupides, apprenez le bon sens. » Qui parle ici? C'est soi-disant la sagesse qui se place au sommet des hauteurs. En d'autres mots, ceux qui sont en haut peuvent se permettre de parler comme ça. Vous qui êtes stupides, écoutez ce qu'on dit et faites ce qu'on vous dit. C'est parce qu'ils sont en haut qu'ils peuvent se permettre de dire et de se vanter que c'est nous qui sommes sages. C'est nous qui sommes élevés au sommet. Et vous écoutez. On vote des lois dans ce pays, vous obéissez. Personne n'a le droit de se plaindre. Parce que quand on regarde à gauche et à droite, on ne voit pas un de vos frangins. Alors c'est nous qui dirigeons. Elle crie. Elle parle tout haut. C'est nous les sages du pays. Faites ce qu'on vous dit. Pourtant Dieu dit, nous aussi, nous devons aller au sommet. Parler. Alléluia. Maintenant, on va s'intéresser aux portes. C'est quoi les portes? Les portes de la ville. Les portes qui tiennent le pays. Puisque l'insensé n'a pas droit de parole aux portes de la ville. Dites-moi les portes de la ville. Les portes de la ville, ce sont les sphères d'influence et de décision politique. Dites-moi les sphères d'influence et de décision politique. Car les gens qui décident, ce sont les politiciens. Ce sont les secteurs économiques et politiques du pays. Ce sont les secteurs clés de la société. Les portes de la ville, ce sont les secteurs stratégiques pour le fonctionnement du pays. Les portes de la ville, ce sont les lieux de jugement où les puissants décident du sort du pays. Ce sont les lieux de justice, tribunaux, etc., etc. Les portes de la ville, ce sont les accès restreint et réservé seulement aux privilégiés qui ont été choisis et qui ont gagné leur droit d'y avoir accès. Les portes de la ville, ce sont les lieux de transactions financières où des contrats importants sont signés. C'est là les portes de la ville. Quand vous ouvrez la Bible, dans l'Ancien Testament, les villes étaient construites avec des portes. Et quand on faisait la guerre contre quelqu'un, on devait absolument prendre les portes. Amen. Parce que quand quelqu'un possédait les portes, gagnait les portes, il gagnait la bataille. Parce que plus personne n'entrait et sortait sans son autorisation. La première chose que quand Néhémie est revenu construire les murailles de Jérusalem, Néhémie a mis un accent très particulier sur les portes. Même une porte qui est citée dans le livre de Néhémie, c'est la porte des poissons. Dites-moi la porte des poissons. Quand tu vois écrit la porte des poissons, c'est la porte de l'économie. Parce que le poisson est le symbole de la richesse et de l'économie. Tu mets ton poisson derrière ta voiture, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. D'où vient le signe du poisson? Eh bien, ça vient de la persécution. Lorsque l'église était persécutée, au temps de l'église primitive, les chrétiens se cachaient maintenant. Les chrétiens ne pouvaient plus s'afficher en public. Et entre eux, quand ils se croisaient dans la rue, le seul moyen qu'ils avaient de se reconnaître, par exemple, ils étaient là, comme ils étaient gardés par des militaires partout, eh bien, si je voulais savoir si celui qui est en face de moi est chrétien, je dessinais un poisson par terre. Et si je voyais qu'il dessinait aussi un poisson par terre, alors on se saluait. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. C'est de là que vient le signe du poisson. Pourquoi ils ont choisi le signe du poisson? Pas parce que Jésus aimait manger du poisson, voyons. Non, on choisissait le poisson parce que le poisson, c'était le signe, un, de la richesse. Deux, c'était le signe de la domination dans l'économie du pays. Donc, c'était un signe qu'ils utilisaient aussi entre hommes d'affaires. Un peu comme nos francs-tireurs, là, quand ils se saluent et puis ils se font des signes de la main, quand ils se saluent, eh bien, les Juifs, à l'époque, quand ils devaient se reconnaître entre eux dans les couloirs économiques de décision, etc., eh bien, on faisait des signes du poisson. Quand on se faisait des signes de poisson, ça voulait dire que moi, je domine là-dedans. Toi aussi, oui, on est ensemble. C'est comme ça qu'ils se reconnaissent entre chrétiens. C'est de là que vient le signe du poisson. Alléluia. Et les portes de la ville avaient une particularité, c'est qu'elles étaient construites essentiellement avec de la pierre et du sable. Et on mettait du plâtre par-dessus. C'était de grandes portes, d'accord? C'était de grandes portes avec des ponts, etc. Et au-dessus des portes, il y avait des salles. Il y avait des salles. Qui a déjà vu le film 300? Hein? Le film 300 chez les Grecs, eh bien, ils décidaient aux portes. C'était le conseil, c'était aux portes qu'ils parlaient. Et on mettait du plâtre pour que les gens puissent s'asseoir, parce que le plâtre permettait à la surface d'être douce. Et ils s'asseyaient au-dessus de la porte, et c'était essentiellement les gouvernants de la ville qui s'asseyaient là et qui venaient décider du sort du pays là. Amen. Et à ces portes-là, on décidait. À ces portes-là, on se retrouvait aussi pour discuter économie, business, etc. On signait des gros contrats. Les pauvres, ils étaient en bas, dans la ville, sachant pas ce qui se passe. Et à l'heure où je vous parle, il y a des décisions stratégiques et importantes qui sont en train d'être prises dans le pays. Et nous, l'Église, on n'est pas à la table. On n'est pas invité à la table. Lorsque la loi du mariage pour tous a été discutée en haut, plus haut niveau de l'État, l'Église n'était pas autour de la table. La première concernée par le mariage de l'homosexuel, c'est l'Église. Ce sont des non-croyants qui se retrouvent autour de la table pour décider si on va voter la loi homosexuelle dans notre pays ou pas. Les chrétiens, ils sont où? Devant leur télévision en train de s'exclamer « Oh, abomination !» Mais vous êtes où? Vous n'êtes pas autour de la table pour empêcher ça. Lorsque le chef de l'État prend des entrepreneurs et puis les emmène à un sommet pour aller signer des contrats avec des pays étrangers. Ah, ma grande tristesse, c'est quand il n'y a pas de chrétiens parmi ces entrepreneurs. Je regarde les noms et puis je dis, Seigneur Jésus, fais que moi je sois parmi cette liste-là demain. Que j'aille moi aussi signer des contrats pour ta gloire. Alléluia. Avec moi les portes de la ville. Les portes de la ville, regarde ce que la Bible nous dit dans Apocalypse à ce sujet. Et tu vas commencer à comprendre. Apocalypse chapitre 17 au verset 9 nous dit, c'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. La version parole vivante dit, c'est ici qu'il faut un esprit d'intelligence et de sagesse pour interpréter ces mystères. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme a établi son trône. Dites-moi la femme. La femme ici, ce n'est pas Ève du jardin d'Éden. Non. La femme ici, c'est un système. Dites-moi un système. Nous vivons dans un système. Nous vivons dans un système qui a été conçu pour les gouvernants. Ce système contrôle toutes les portes de la ville. Nous naissons dans ce système. Nous grandissons dans ce système. Nous subissons ce système. Et si on veut que le monde change et soit gagné à Jésus-Christ, on doit combattre et changer ce système. Ce n'est pas un combat d'une journée. Ce n'est pas un combat qu'une personne remportera. C'est l'Église unie, ensemble, impliqué dans les affaires de la ville, du pays, qui pourra faire bouger le système. Et ce système, cette femme, elle est assise sur cette montagne. Et ces montagnes, ce sont des piliers. Ce sont des secteurs stratégiques. Extrêmement importants. Amen. C'est ce que Salomon appelle les portes de la ville, où le pauvre et l'insensé n'ont pas droit de parole. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Oh yes. Le mot sagesse ici, utilisé ici, c'est le mot grec Sophia. Qu'est-ce que j'aime ce prénom? C'est celui de ma fille. Sophia. Dis-moi la sagesse Sophia. Qui veut dire la plénitude de l'intelligence, le savoir, l'interprétation des songes, adresse dans la direction des affaires ou encore intelligence suprême. Sophia. Quand j'ai prié pour ma fille, je lui ai donné tout ça. Donc elle a tout ça. Elle est intelligente. Elle a le savoir-faire. Elle saura interpréter tous les songes qu'on lui donnera comme Joseph. Elle sera excellente dans les affaires. Parce qu'elle aura une intelligence suprême. Toi aussi, tu vas appeler ton enfant Sophia. Ben, je te donne. La femme est ce système assis sur les sept montagnes, sur sept têtes, sur sept secteurs stratégiques qui dirigent le pays. Amen. Et ces sept montagnes, ces portes dont nous parle Salomon, sont sept portes. Pour certains, ils en ont déjà entendu parler. Pour d'autres, ce sera une grande découverte pour vous. Dis avec moi, sept portes. La première porte qui contrôle une nation, c'est la porte de l'éducation. Dis avec moi, l'éducation. Cette porte est très importante. Pourquoi? Parce que c'est cette porte qui décide de l'instruction, du façonnement des mentalités de nos enfants, dès le bas âge. Donc, celui qui contrôle la porte de l'éducation, il contrôle les mentalités. Il contrôle le mode de pensée des peuples dès leur bas âge. La deuxième porte, c'est la porte de l'économie et du business. La porte des affaires. Elle est stratégique et extrêmement importante parce que celui qui contrôle le cadre des affaires dans le pays, il contrôle l'action. C'est pour cela qu'il doit avoir de plus en plus d'enfants de Dieu impliqués dans les affaires. Il faut vous lancer dans les affaires. Car si on veut prendre le pays, il faut prendre son économie. Et pour prendre son économie, il faut bâtir des entreprises prospères. Il faut créer de la richesse. Il faut embaucher. Il faut signer des contrats et influencer les gouvernants de la nation avec nos entreprises. Demain, quand tu seras à la tête d'une entreprise qui embauche 5000 Gabonais dans tout le pays, je t'assure, les politiciens de ce pays viendront se mettre à genoux devant toi et implorer tes grâces. Tu n'auras aucun compte à leur rendre dans ce pays. Aucun. Et chaque fois qu'on devra prendre une décision importante dans le pays, on viendra te consulter. Même lors d'élections présidentielles, on viendra te consulter. Tu seras un faiseur de roi parce que tu tiens l'économie. Tourne-toi vers quelqu'un et lui dis, lance-toi dans les affaires. Arrête de dormir un peu. La troisième porte qui tient le pays, qui tient la société, c'est la porte du divertissement. Tout ce qui concerne les arts et les loisirs. Entertainment, on dit en anglais. Ce sont ceux qui divertissent. Ce sont ceux qui divertissent nos enfants, mais qui divertissent aussi les adultes. Tout ce qui touche au divertissement. Alors, en dehors du travail, les gens s'amusent. Mais ils s'amusent où? Avec qui? Sous quelles conditions? Celui qui tient le divertissement, il tient une porte importante dans le pays. La quatrième, c'est les médias. Oh, celle-là est trop importante. Les chaînes de télévision, de radio, Internet. Celui qui tient la porte des médias, il tient les mentalités, il tient les opinions. C'est pour cela qu'on appelle Satan le prince de l'air. Celui qui envoie toutes sortes de fausses paroles par les airs. Les airs, ici, ce sont les médias. Tu te lèves le matin et on te raconte toutes sortes de bêtises à la télévision et tout le monde croit. Vous allez dans les administrations de la place gabonaise, regardez le nombre de personnes qui lisent l'Union. Tout le monde quasiment lit l'Union. Tout le monde reçoit la même information le matin. Si en plus on veut vous faire peur, on vous rajoute une page avec plein de morts à la fin. Et tout le monde croit ce qui est écrit dedans. Quand on veut avoir des informations qui touchent l'international, On se connecte à l'AFP, France 24, France 2, RFI, BFM, puis voilà. Voilà, François Hollande a décidé de ne pas se représenter. Oh, voilà, maintenant, ça risque d'être Manuel Valls. Hein? Manuel Valls, François Fillon contre Marine Le Pen. Oh, pas les chrétiens. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils ne sont pas concernés par tout ça. Ils sont nulle part, ils ne décident pas. Quand on dit élection présidentielle au Gabon, tout le monde va dans la même direction. Tout le monde a dépeint dans les journaux partout. Il va y avoir la guerre au Gabon. Il y aura la guerre. Même moi, je ne pouvais même plus aller faire sereinement mes courses à ces cadeaux tellement vous aviez tout vidé. Donc, on a tellement fait croire qu'il y aura la guerre qu'il a failli vraiment y avoir la guerre. Je ne sais pas si j'ai bien parlé français là, mais bon. Il a vraiment failli y avoir la guerre. Mais en fait, cette guerre devait venir d'où?
Intérieure.
Parce que c'est un venin qu'on a propagé dans les médias. Tout le monde a cru à ce mensonge au point qu'il est devenu vrai et réalité. Les médias. Pourtant, si on veut changer le pays, si on veut prendre le pays, il faut prendre la porte des médias. La religion, c'est ce qui concerne les croyances, ce qui touche à la révélation divine. Si on veut prendre le pays, il faut contrôler les croyances des gens. Il faut que l'Église évangélise et véhicule la vérité sur Christ. Il faut que les gens arrêtent de croire au Da Vinci Code et au Marco Scorsese et toutes ces bêtises-là qui perdent les gens à toutes sortes de fausses doctrines, de mythes. Il faut que l'Église se lève. Il faut que les pasteurs soient beaucoup plus influents. Les prophètes et les évangélistes soient plus présents pour pouvoir dire la vérité. Que les pasteurs ne se contentent pas seulement de construire des églises, qu'ils construisent des chaînes de télévision. La sixième porte, c'est la politique, bien évidemment. La politique, c'est le monde des chefs. C'est le monde du leadership. Les chrétiens peuvent faire de la politique? Bien sûr que oui. Il faut aller prendre cette porte. Il faut que l'Église se lève et forme des hommes d'État qui vont en politique, qui prennent le pays dans la politique. Enfin, les familles. Pourquoi? Parce que quand on parle de famille, on parle de foyer, on parle des mariages. Quand on voit les divorces qui affluent, les divorces de toutes sortes dans les églises, c'est une tragédie. Lorsque ce sont eux, les sages, qui doivent montrer l'exemple de familles heureuses, stables et prospères à la gloire de Dieu. Et cette porte de la société, ils tiennent la ville. Et Dieu nous dit que c'est là que vous devez aller. Alléluia. Est-ce que tu me suis maintenant? Hein? Tu te rends compte que le mandat de l'Église, ce n'est pas un petit mandat. Hein? Tu te rends compte qu'on dort. On dort trop. Et béni soit le Seigneur pour cette nouvelle génération que nous sommes. Ah, nous, on ne blague pas, mon ami. Nous, on est sérieux. Et on a décidé de prendre le pays. Dis avec moi, nous allons prendre le pays. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de 100 personnes. Il avait besoin seulement de 12. 12 personnes qui étaient meneurs de file. Derrière, il y avait au moins 500 disciples. Mais il y avait les 12. Tu as entendu parler de Barthélemy? Tu as déjà vu un évangile de Barthélemy? Non. Mais tu sais qui a changé l'Afrique? C'est eux. Parce que pendant que Paul allait au Moyen-Orient, pendant que Pierre allait à Rome, tu ne sais pas où sont partis les Barthélemy. Quand tu vas voir l'histoire des disciples, l'histoire, ils sont allés en Afrique. C'est eux qui sont allés en Afrique. C'est eux qui ont commencé à évangéliser l'Afrique. Ils n'ont pas écrit des livres. Grâce à eux, l'évangile a pu rentrer en Afrique. Alléluia. Et pour pouvoir prendre ces 7 sphères d'influence, ces 7 secteurs stratégiques, il nous faut sagesse. Mais quand on parle de sagesse, on ne parle pas seulement d'instruction, etc. La Bible nous parle de 7 colonnes de sagesse. Ça a attiré mon attention. Salomon nous dit dans Proverbe 9:1, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. C'est écrit dans ta Bible. 7 colonnes de la sagesse. Qu'est-ce que c'est que les 7 colonnes de la sagesse? Bien, le Seigneur m'a expliqué que si tu veux prendre les 7 secteurs, il faut comprendre les 7 colonnes. Il faut comprendre que chaque colonne est une force qui tient le pilier, qui tient la société. Et vous, les chrétiens, vous devez bâtir chacune de ces colonnes-là. Vous devez les posséder. Amen. Les 7 colonnes de la sagesse sont les 7 piliers de l'intelligence. Les 7 piliers de l'intelligence. Alléluia. Les 7 esprits de Dieu qui composent l'intelligence divine. Nous dit la Bible. Les 7 intelligences divines qu'on retrouve chez les fils de Dieu. Quand tu regardes l'intelligence des enfants de Dieu dans l'église, tu retrouveras toujours ces sept-là qui permettent de prendre les sept portes. Les sept esprits de Dieu qui habitent dans l'église, les sept esprits de gouvernement que l'église de Christ possède, les sept onctions de Dieu dans l'église pour influencer le monde. Dis avec moi, onction. Ces sept onctions sont sept esprits de Dieu. Sept esprits de Dieu qui habitent chez les enfants de Dieu. C'est pour cela que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 qu'il y a différents types de dons, mais il y a un seul esprit qui fait ces choses parmi les enfants de Dieu. Sept colonnes de la sagesse, sept esprits de Dieu que l'on retrouve chez les fils de Dieu. Et en fait, ces sept esprits sont sept aptitudes, sept onctions. Onction veut dire simplement aptitude. Équipé d'une aptitude, être équipé de capacités pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Sept esprits qui sont présents dans l'église. Et si tu veux trouver où est ton appel, trouve ton onction. Trouve l'esprit qui repose sur toi. Parce que quand tu comprendras l'esprit qui repose sur toi, tu sauras dans quel secteur Dieu t'appelle. Trouve ton onction. Si tu as des aptitudes dans l'art, tout ce qui touche à l'artistique, que ce soit la musique, les vêtements ou bien la créativité, tu es appelé dans le domaine du divertissement. C'est ton onction et tu dois croître là-dedans. Si tu es appelé, si tu as des capacités dans tout ce qui touche aux chiffres, tu as des aptitudes dans les affaires, ton onction, c'est dans le domaine du business et de l'économie. Si tu ne comprends pas, tu as une attirance très particulière pour la politique, c'est que tu as une onction de chef. Tu es appelé à diriger dans la politique. Mon appel, c'est devenir une personne d'État ou un haut magistrat ou je ne sais pas, dans l'administration. Mais tu es appelé à influencer dans la politique. Parmi vous aussi, il y en a qui sont appelés dans la politique. Il y en a qui sont appelés ici dans la politique. Si tu as un appel dans la politique, pas honte. Engage-toi en politique. Moi, on a Dieu la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Engage-toi. Moi, je crois que Dieu va lever des hommes d'État dans cette église. J'en suis convaincu. Ah. Sept colonnes de la sagesse. Ce sont sept onctions d'influence que l'église possède pour prendre les portes de la ville. Mais alléluia. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Il nous dit, autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Dites-moi les sept esprits de Dieu. Et ces sept esprits sont présents dans l'église. Et Ésaïe nous éclaircit encore davantage sur ces sept esprits. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 3, il dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel, dites-moi l'esprit de l'Éternel, reposera sur lui. Esprit de sagesse, dites-moi esprit de sagesse. Et d'intelligence, dites-moi esprit d'intelligence. Esprit de conseil, dites-moi esprit de conseil. Esprit de force. Esprit de connaissance et esprit de crainte de l'Éternel. Sept esprits présents dans le corps de Christ. Sept onctions. L'onction de l'Éternel, l'onction de sagesse, l'onction d'intelligence, l'onction de conseil, l'onction de force, l'onction de connaissance et l'onction de crainte de l'Éternel. Qui sont sept onctions, sept capacités, sept aptitudes qui sont présentes dans l'église pour posséder et prendre les portes, les sept portes de la ville, les sept portes du pays. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse. Il est très rare de voir une personne posséder les sept esprits. Jésus-Christ a manifesté les sept, mais c'est très rare. En général, tu manifesteras toujours une, peut-être une deuxième, mais tu seras toujours excellent dans une. C'est rare que tu dépasses deux, parce que ce sont des onctions très très fortes. Alléluia. Sept onctions d'influence qui sont présentes dans l'église. Et ces sept onctions, ces sept esprits de Dieu nous permettent d'opérer dans les sept montagnes. Maintenant, la question que je me suis posée, et c'est ce que le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer, c'est chacune d'entre elles va dans quel secteur? Eh bien, c'est ça. L'Esprit de l'Éternel parle de l'instruction. Et cette onction, elle est pour l'éducation. L'Esprit de l'Éternel parle de l'instruction. Et elle est pour l'éducation. La porte de la famille, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel qui consiste à véhiculer et transmettre les valeurs de la famille. Esprit d'intelligence, c'est pour le monde de l'économie et des affaires. La finance et l'économie. L'esprit d'intelligence, c'est l'esprit qui comprend la finance, les chiffres, l'économie. Ça, c'est pour le monde du business. Si tu veux te lancer dans les affaires, tu auras des aptitudes, tu auras une intelligence, une compréhension dans les chiffres. Tout ce qui touche au monde de l'argent. L'esprit de conseil, c'est l'onction de révélation, c'est pour l'église. L'esprit de force, c'est l'esprit de leadership. Ça, c'est pour ceux qui sont appelés dans le secteur de la politique. Si tu es appelé dans le monde de la politique, tu as sur toi un esprit de force, c'est-à-dire un esprit de chef. Tu es appelé à mener les autres, ou du moins à influencer dans les hautes sphères où les choses se décident. Dans le monde du divertissement, c'est l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance, c'est l'esprit de créativité. Parce que pour opérer dans le monde du divertissement, dans le monde artistique, il te faut la créativité. Et enfin, l'esprit de sagesse, c'est pour les médias. Parce que là-bas, on parle d'innovation et de technologie. Ce sont les savants qui vont là-bas. Ce sont ceux qui créent les contenus et les programmes. Ils ont des aptitudes dans l'innovation. Ils savent créer sans cesse de nouveaux programmes pour influencer les mentalités par les médias. Quel est l'esprit que tu as sur toi? Quelle est l'onction que tu as sur toi? Trouve ton onction et grandis là-dedans. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand tu vas découvrir ton onction, ne te demande plus, Seigneur, à quoi tu m'appelles. Voici le secteur où Dieu t'appelle. Si toi, tu dis, Seigneur, moi, j'ai l'esprit de sagesse en fait. Moi, c'est l'innovation. Je suis très fort là-dedans. Nouvelles technologies, informatique, toutes sortes, tout ce qui touche aux nouvelles technologies et à l'innovation. Dieu dit, c'est ton onction. Va dans le monde des médias. Le monde des médias, il est très vaste. Que ce soit la télévision, la radio, les nouvelles technologies, Internet. C'est vaste. Il y a des branches partout. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, oriente même tes choix scolaires, universitaires et professionnels dans ce domaine. Ne va pas te perdre en politique ou dans les affaires. Concentre-toi là-bas. Et là-bas, tu pourras même aussi faire des affaires. Si tu découvres que tu as des aptitudes en leadership, tu es un meneur, tu vas peut-être te rendre compte que tout ce qui touche à la direction de la nation, ça attire ton attention. Dieu dit, tu as des aptitudes en politique. Mais quand on dit politique, ça ne veut pas dire absolument celui qui va parler. Car il y a aussi ceux qui sont derrière et qui influencent les politiciens. Il y a les conseillers. Il y en a, Dieu ne va peut-être pas vous appeler à être chef d'État ou bien ministre. Mais tu peux être un excellent conseiller du chef d'État. De sorte que lorsque le chef d'État est en train de décider, en train de prendre une décision importante pour la nation, un jour il te demande juste, tu en penses quoi à toi? Et ta parole peut changer la donne. Alléluia. Il y en a, ils sont appelés dans la famille. Il y en a, vous ne vous rendez même pas compte. Mais rien que votre mariage est un puissant témoignage. Il y en a, vous êtes des exemples pour les couples, pour les familles. Vous vous demandez peut-être, où est-ce que Dieu m'appelle? Mais si vous avez cette onction-là, investissez-vous dans le secteur de la famille. Élevez des enfants modèles. Ouvrez des agences matrimoniales. Relevez les couples qui sont tombés. Faites des séminaires et des conférences sur le sujet. Bâtissez les familles. Et quand l'église est équipée de ces sept onctions, elle est puissante et forte. Il y en a, vous êtes appelés au niveau du gouvernement céleste. Vous êtes appelés à être pasteur, évangéliste. En général, ils se retrouvent dans les cinq gouvernements révélés dans Éphésiens 4, 11. Pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre. Si toi, tu as l'esprit de révélation, c'est-à-dire toi, tu as la capacité à te tenir. Comme quand Apollos a été révélé. La Bible dit que Apollos avait la facilité à expliquer les Écritures. Maintenant, vous avez cette facilité-là. Si tu te rends compte que tu as vraiment une grande, grande facilité à enseigner les Écritures, tu as appelé dans l'Église. enseigne dans l'église. Moi, dès que je découvrirai quelqu'un qui a le caractère de Christ, un, et deux, la capacité à enseigner les Écritures, le propulse tout de suite, va nous soulager. Alléluia. D'autres sont dans l'éducation. Tout ce qui touche à l'instruction, c'est leur appel. Vous êtes soit appelé à enseigner, soit appelé à bâtir des écoles qui vont enseigner. Et l'éducation, ce n'est pas juste des écoles. C'est dans le domaine de la formation. Toutes sortes de choses. Du consulting. Alléluia. Les sept onctions d'église pour prendre les sept portes de la vie. Ainsi, lorsque Salomon nous dit dans Proverbe 24 que le fou, la sagesse est trop élevée pour lui, il ne se tient pas aux portes de la ville, il ne peut même pas ouvrir la bouche là-bas. Notre problème, nous l'église, c'est que quand on regarde ça, nous avons ces sept onctions dans l'église, mais on ne grandit pas là-dedans. On ne possède rien dans la nation en ce qui concerne ces sept portes. Business, on est totalement absent. Politique, on est absent, voire ridicule. L'éducation, on n'a aucune école. Les médias, aucune chaîne de télé, aucune chaîne de radio, aucun site internet qui influence, aucun magazine papier ou numérique, rien du tout. Divertissement, zéro. On n'est nulle part. Politique, alors là, sans commentaire. La famille, divorce dans l'église. Adultère à tout va. On n'est pas des exemples. On est absent. On n'a aucun droit d'ouvrir la bouche à la porte de la ville parce que notre sagesse, elle n'est pas reconnue. Alléluia. Oh, il faut prendre le contrôle des portes. C'est ce que Dieu nous appelle. C'est notre mandat. Il faut prendre le contrôle des portes. Dis-moi, prendre le contrôle des portes. Parce que je répète encore dans Proverbe 8, c'est au sommet des hauteurs qui domine la route. C'est à la croisée des chemins, c'est-à-dire où tout se décide, que la sagesse trouve sa place aux portes. C'est là qu'on doit être. C'est là que les choses se décident et c'est là que Dieu nous veut. Dieu veut qu'on arrête de dormir dans nos églises et qu'on aille prendre les sphères d'influence. Qu'on prenne le pays, qu'on arrête de prier et qu'on prenne le pays. Qu'on prenne l'économie, qu'on prenne la politique, qu'on prenne l'éducation, qu'on prenne les médias, qu'on prenne le pays. Ah, l'église a reçu ce mandat d'accéder au sommet. Elle doit gouverner. Parce qu'aujourd'hui, l'église ne gouverne pas. L'église ne gouverne pas. Elle doit transmettre les valeurs de Christ. Elle doit contrôler la destinée de la nation. L'église, elle doit dominer dans tous les secteurs. Elle doit faire des disciples. Allez, moi, allez. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai prescrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils guériront les malades, ils poseront les mains aux malades, ils seront guéris. Les serpents vont les mordre, il ne leur arrivera rien, ils boiront des breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Allez, vous avez peur de quoi? Voici, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et ce pouvoir, je vous le donne. Et l'église a ce pouvoir-là. Mais pourquoi on a peur? N'ayons pas peur. Nous sommes en 2016. Nous sortons d'une élection présidentielle. Les prochaines élections présidentielles, c'est dans 7 ans, non? C'est dans 7 ans. Mais c'est aujourd'hui que l'église se prépare. C'est aujourd'hui que l'église commence à préparer des hommes d'État. Si Dieu dit que ce pays sera entre les mains d'un chrétien dans 7 ans, ou dans 14 ans, ou dans 20 ans, c'est aujourd'hui que ça se prépare. C'est pas 3 mois avant qu'il faut commencer à faire les prières. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se prépare dès le bas âge. Il faut que les pasteurs commencent à préparer des hommes d'État. On aura même des réunions spécialement pour les hommes d'État à l'église. Ouais, on aura des réunions où on enseignera la sagesse pour le secteur de la politique à l'église. On va dire, oh, le pasteur là prépare des politiciens. Ouais, on prépare des hommes d'État. On va enseigner avec la parole de Dieu, l'esprit de force de l'Éternel, l'esprit de chef. Comme ça, demain, tu viendras, tu diras, pasteur, on m'a appelé, pourquoi? Parce qu'on veut me placer conseiller quelque part là. Je fais quoi? Mais tu vas et tu gères. Tu règnes, mon ami. M'appelle, dirige, décide, influence les chefs. Pasteur, je veux créer une chaîne de télévision. Créons une chaîne de télévision. L'église aura sa chaîne de télévision. Mais vous pouvez tous avoir vos chaînes de télévision aussi. Pasteur, je veux créer une radio. Crée ta radio et impose tes programmes.
Pasteur, moi, c'est le monde des enfants et du dessin animé. Vas-y, lance tes contenus. Change les mentalités des enfants. Faisons des disciples. Prenons le contrôle des portes. Arrêtons de dormir, peuple de Dieu. Et levons-nous pour changer notre pays. Pour finir, je me suis rendu compte de quelque chose. Comme je l'ai dit au tout début, c'est que la sagesse, la richesse n'est jamais loin. Pourquoi ? Salomon va voir Dieu et dit à Dieu, « Seigneur, je veux diriger ton peuple et je veux que tu me donnes la sagesse et l'intelligence. » Dieu dit, « Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, etc. Je te donne la sagesse, mais en plus, je te donne la richesse. » Parce que Salomon, tu ne peux pas... La sagesse sans richesse, c'est juste incomplet. Il faut que la richesse suive. Ah. Regarde ce que Salomon nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 13. Lis bien ce passage. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans ce passage que je vais te montrer. Il dit Ecclésiaste chapitre 9 au verset 13. J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse. Dis-moi cet exemple de sagesse. Cet exemple. Et il m'a paru important. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un puissant a marché contre elle, l'a encerclée et a fait de grands travaux de siège contre elle. Mais il a été confronté à un homme pauvre et sage. Dis-moi un homme pauvre. Il ne dit pas d'abord un homme sage, il est d'abord pauvre. Et on reconnaît qu'il est aussi sage, qui a sauvé la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force, n'est-ce pas? Cependant, dites-moi cependant. Quand on dit cependant, ça veut dire que ceux qui viennent derrière, ça n'a aucune valeur. La sagesse du pauvre est méprisée. Et ces paroles ne sont pas écoutées aux portes de la ville. Il est pauvre, le gars. Il parle bien, mais il est pauvre. L'église du Gabon, on est pauvre. On est pauvre. Notre sagesse n'est pas écoutée. Vous voulez qu'on dise quoi? On est pauvre. On cherche l'argent du taxi. Pendant que les autres roulent dans des grosses voitures et décident, nous on cherche l'argent du taxi pour venir à l'église. Pasteur, je ne peux pas venir à l'église aujourd'hui. Pourquoi? Je n'ai pas l'argent du taxi. Ah Jésus, qu'il te délivre. Là je taquine un tout petit peu. Hein? Mais de manière générale, on est pauvre. Qu'est-ce qu'on possède dans le pays? Quelle est notre richesse? On n'a rien. On est pauvre. Quand il faut élection présidentielle au mois de septembre, on est où? On est pauvre. Tout ce qu'on sait faire, c'est prier. On est pauvre. Qui est écouté dans la nation? Ce sont les riches et les puissants. C'est qui passe à la télévision pour parler aux Gabonais? Ce sont les riches et les puissants. Ce sont toujours les mêmes, non? Ils sont riches. Ils sont riches. Nous, on est pauvres. Par contre, on s'est beaucoup parlé. On s'est critiqué, on s'est insulté, on s'est se plaindre, on s'est prié, etc. Mais on est pauvre. Il s'agit de parler de l'éducation. Voilà, nos enfants ne vont pas à l'école. Année blanche, il y en a marre, etc. Laissez nos enfants tranquilles, tout ça, tout ça. Vous êtes pauvres. Vous n'avez aucun droit de parole ici. Elles sont où vos écoles? Vous venez parler quoi? Oh, voilà, il y en a marre de tous les programmes qu'on met à la télévision. Voilà, Disney ceci, Disney ceci. Voilà ceci, Gabon 24. Voilà, Télé Africa. Vous êtes pauvres. Vous n'avez aucune chaîne de télé dans ce pays. Taisez-vous. Dites-moi la richesse. Ah, ça c'est mon futur jet privé. Chayama Korabashteke. Yeah. Ah. Bientôt je ferai Libreville Chibanga avec ça. La richesse est un levier d'influence. Tu peux être sage, mais il te faut la richesse aussi. L'église, il faut la richesse. Les pasteurs qui vendent l'évangile en disant pas de richesse, pas de prospérité, c'est une abomination, tout ça, excusez-moi de le dire, ce sont des agents du diable. Car on ne peut pas parler de l'évangile sans avoir la richesse avec nous. Moi, la richesse, la vraie sagesse est associée à la richesse. La vraie sagesse, c'est pour ça que Dieu donne à Salomon aussi la richesse. Et tu ne verras nulle part dans la Bible, nulle part, je te mets au défi, où tu trouveras un passage où on parle de la vraie sagesse sans qu'on parle de la richesse derrière. Toujours la richesse. Dieu lui-même est décrit comme un Dieu riche. Il dit l'argent et l'or lui appartiennent. C'est le Dieu de la richesse. Tu vas venir devant Dieu et tu vas ressortir de sa présence pauvre. C'est pas possible. Il est le Dieu de la richesse. Même quand il respire, l'argent sort de ses narines. Et toi, tu viens me parler de l'évangile des pauvres. Dieu dit, mais tu es fou, quoi. On l'appelle le roi des rois. Il est riche. Et quand il dit, Seigneur, je veux être comme toi, je me livre totalement, rends-moi comme toi, je rajoute, Seigneur, rends-moi riche comme toi. Riche. Sois à l'aise avec ça. Oh, toi aussi. Sois à l'aise. Vous voulez devenir riche, priez ici. Parce qu'ici, il y a l'onction de la richesse. Oh. Mais je suis très sérieux. Votre pasteur n'est qu'un aperçu avant impression de votre vie. Moi, j'ai commencé. Oh. Oh, 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 oh. Si je commence à te sortir certains secrets ici, tu vas dire le pasteur là est dangereux. Des... Ah, on n'opère plus dans le 500 000, nous. On opère en haut. On opère en haut. Parce que j'ai dit, Dieu, le million, le 500 000, là, c'est fini. Moi, je veux voir ton évangile aller loin. Je veux construire une télé, moi. Et si je veux construire une télé, ce n'est pas des caméras à 100 000 francs qu'on achète. C'est des caméras à 5 millions, des rails à 10 millions. C'est ça qu'on achète. Quand on veut organiser une conférence mandat, c'est la prochaine fois qu'on prend le stade. Quand on prend le stade, on te dit 40 millions le début. Tu dis, c'est pas, il n'y a pas de problème, je paye. L'onction de la richesse est attachée aux enfants de Dieu. C'est pour ça que tu dois refuser la pauvreté. Tu dois haïr la pauvreté. Parce que la pauvreté cause trop de problèmes, des maladies, toutes sortes. On ne peut rien faire parce qu'on est pauvre. On peut parler, on peut donner nos messages sur Facebook, etc. Les païens te regardent, ils sont pauvres. Parce qu'ils ont ces Facebook, regarde-les. C'est là où ils viennent parler dur sur Facebook. Franchement. Mais quand il s'agit de posséder le pays, quand il s'agit d'être présent à des forums, quand il y en a au stade de l'amitié, etc., il n'y a pas de chrétiens. Ils sont absents. Quand on dit Grand Prix de l'Excellence, il n'y a personne. Si, si, il y a. Je me rattrape, elle se reconnaît. Alléluia. Le pauvre n'est pas écouté à la porte de la ville car il n'a pas de richesse pour mettre en œuvre sa sagesse. Hein? La richesse, elle élargit les possibilités. Et étant le champ d'action de l'évangile, Jésus était riche. Tu as déjà vu un pauvre avec un trésorier? Tu as vu ça où? Les gens qui ont des trésoriers sont les gens qui sont riches. N'aie aucune honte et aucune gêne à poursuivre la richesse. Comprends les stratégies pour activer la richesse, pour amener ça vers toi. Et deviens insolemment riche dans ce pays. Et quand tu es riche, tu te tiens à la télévision, tu te tiens sur les tribunes et tu dis, moi je crois en Jésus-Christ, qui n'est pas content ici? Sommet d'État, sommet des chefs d'État ou de je ne sais pas quoi. Et te voilà qui arrive à la tribune. Les gens applaudissent, les gens se lèvent, oh, tu te lèves. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant que je commence mon propos, je vous prie de vous lever s'il vous plaît. Nous allons prier. Hein? Et tu pries, même s'il ne ferme pas les yeux, il te regarde. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Tu pries, Père, au nom de Jésus, je te rends grâce. Merci pour mon discours et merci pour cette humble assemblée. Ton onction se déploie et que Jésus-Christ seul soit glorifié. Quand tu fais ça, ils ne peuvent pas te toucher. Tu es lourd. Tu es lourd. Qui a osé parler? Tu es lourd. Moi, j'aime Tony Elou Melou. Un Nigérien aussi. Patron de la banque UBA. Il dit, moi, je crois en Jésus. J'ai aucun problème avec ça. Qui va l'embêter? Il est chrétien. Il parle de son Jésus comme il veut. Bill Gates se met devant lui. Il ne parle pas. Les chefs d'État viennent pleurer devant lui. C'est un chrétien. Il est venu à Libreville. On lui a déroulé le tapis rouge. Il est chrétien. Et il n'a pas honte de dire dans le micro, Jésus est Seigneur. Moi, j'aime Neymar. Chaque fois qu'il marque un but ou gagne une coupe, il met son Jésus. Les gens viennent sur Facebook partout. Ils sont fous. Il est Neymar, mon ami. Il est multimilliardaire. Il met son Jésus. Vous n'êtes pas content? Allez vous faire voir. Être riche. faut être riche. Et cette église, tant qu'on ne sera pas immensément riche, je ne serai pas satisfait. Parce qu'il faut qu'on ait la richesse avec nous. Parce que quand on aura la richesse, notre sagesse sera écoutée. Et là, quand on va se tenir parmi les puissants, portes de la ville, on pourra parler. Parce que celui qui parle, c'est celui qui a l'argent. Quand on dira réunion, tant que tu n'es pas arrivé, on t'attend. Parce que c'est toi qui as l'argent. Oui? Parce que tu es riche. Oh, mais quand quelqu'un devient riche, quand il y a les réunions de famille à la maison, on l'attend. Hein? On l'attend. Il n'y a que le pauvre qu'on n'attend pas. Il n'est pas là. Tant pis, laissez-le. Il ne nous sert à rien. Oh! La richesse, elle impose le respect et donne du poids à la parole de sagesse de l'église. Dieu ne se bâtit pas une église pauvre, mais une église riche et prospère. Alléluia. Voilà pourquoi les sept portes, c'est notre mandat apostolique. Dans l'éducation, on arrête de se plaindre du système éducatif et on commence à changer le système en bâtissant des écoles, des lycées et des universités. En ce qui concerne la famille, on arrête de s'étonner des scandales matrimoniaux qui minent la société, de l'homosexualité, des divorces, du mariage pour tous, etc. On commence à bâtir des mariages solides et former des enfants exemplaires. Dans les affaires, on arrête de se contenter de travailler pour les autres, pour les païens dans le monde. On commence à bâtir des hommes et des femmes faire riches et puissants dans le pays. Hein? Dans l'église, on arrête de dire que Jésus est la vérité et on commence à être une église forte, influente, prospère, qui témoigne de la vérité en résolvant les problèmes de la société. Alléluia. Dans la politique, on arrête de se plaindre des crises politiques. On arrête de se plaindre des élections par-ci, des élections par-là. Et on commence à entrer en politique, à infiltrer les sphères politiques et à bâtir des hommes et des femmes d'État influents qui craignent Dieu. Alléluia. Dans le divertissement, on arrête de se plaindre des perversions dans le divertissement et les loisirs. Et on crée des loisirs, on produit des artistes chrétiens, des chantres de l'éternel qui vendent des disques et qui rassemblent des foules. Et dans les médias, on arrête de se plaindre des programmes païens. On commence à créer nous-mêmes nos propres programmes, nos chaînes de télé, radio, magazines. Et on produit nous-mêmes nos programmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? Yeah! Il faut prendre le pays. Yeah. Commence à prier avec moi. Commence à prier. Dis Seigneur, je prends le pays. Prends le pays. Car Dieu nous appelle à un mandat apostolique. Un mandat prophétique et apostolique. Seigneur, nous voulons prendre le pays. Parce que la richesse est attachée à l'église. Alors lève une église riche. Lève une église forte. Lève une église influente. Lève une église puissante. Qui se tient parmi les puissants dans la ville. Et qui prend le pays. Lève des hommes d'État qui s'engagent en politique pour changer le pays, Seigneur. Il y en a marre de tous ces païens qui nous fatiguent. Lève des chrétiens, Seigneur, qui sont influents dans la politique. Lève, Seigneur, des hommes et des femmes influents dans les médias, des chaînes de télévision. Acceptons le mandat apostolique et prophétique que tu déposes sur l'église. Yeah. Roma Kataebos. Yeah. Parce que tu nous appelles dans l'éducation à bâtir des écoles, à bâtir des universités, à bâtir des lycées. Lève une église présente dans l'éducation. Prie et demande à Dieu de t'équiper de l'onction de l'Esprit de l'Éternel, l'onction de l'Esprit de
sagesse, l'onction de l'esprit d'intelligence, l'onction de l'esprit de connaissance, la créativité et l'innovation dans les nouvelles technologies. Lève une église intelligente. Une église riche, une église prospère. Lève des milliardaires en dollars dans cette église, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acceptons le mandat apostolique. Une église puissante qui se tient aux portes de la ville. Que les jeunes ne restent plus longtemps sur le banc de l'école, mais qu'ils commencent à entrer dans la société, qu'ils commencent à travailler, qu'ils commencent à opérer, à influencer les chefs d'État, influencer les directeurs généraux, influencer les hauts magistrats. Lève des jeunes intelligents au nom puissant de Jésus. Lève une génération de Néhémie, des gens qui bâtissent les portes des murailles. Lève, Seigneur, une génération Néhémie. Car à toi seul revient la gloire, le rassemblement des peuples est pour toi, Seigneur. Cette parole s'accomplira dans cette église au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu fera de toi quelqu'un de riche et puissant pour prendre les portes du cap au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? Amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact @lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.